Jean Giraudoux, le cerf. Vers le début de l'année, Fontrange, qui avait vécu depuis la mort de son fils dans l'affliction, ressentit un malaise contre lequel il se défendit d'abord, car il y soupçonna presque une distraction à son deuil. Il lui sembla un jour qu'il aimait moins les chiens. Il continua à les dresser, à les caresser, mais il dut bientôt s'avouer que ses gestes étaient machinaux et que les chenilles ne l'intéressaient plus. Il était le premier Fontrange auquel pareille aventure arrivait. Il en fut honteux et désolé. Les chenilles des Fontrange étaient plus anciens que la plupart des familles nobles de France. Le remords que ressentit le premier Montmorency qui se détacha des armes, le premier Racine qui renia la poésie, le premier Lauzun qui n'aima plus les femmes, Fontrange l'éprouva. De même que ce dernier, Lauzun, pour en avoir le cœur net, ne quittait plus la maîtresse sur laquelle avait péri la fougue des Lauzuns, il redoublait ses visites aux chiens. Les chenilles ne contenaient, à part quelques rares achats en basset et en coquère, que des chiens que Fontrange avait vus naître, dont pas une canine ne lui était ignorée, qu'il connaissait aussi dans leur caractère comme ses pensées. Mais il ne l'intéressait plus. Il ne se doutait pas que c'était ses pensées qui ne l'intéressaient plus. Il se forçait à promener ses favoris, mais il avait de la peine même à leur crier leur nom, car ces noms ont transmis chez les Fontrange par les chiens, Marmouget, Becquet, Clisson, Polto, tous ces noms de haine confiés aux animaux les plus fidèles et qui allaient survivre à la disparition de la famille. Et il les laissait encore le soir auprès du feu de Sarment s'approcher de lui, poser leur tête sur ses genoux. Il prenait même cette tête. Mais tout ce que pensait Yorick avec sa tête de mort, Fontrange ruminait avec cette tête de Setter Gordon vivante et veloutée entre les mains. Il la secouait, il entendait un froissement, un bruit de velours, qui était le froissement des longues oreilles, mais qui semblait celui aussi d'une cervelle dans un crâne. Oh, il ne pensait pas très exactement être ou n'être pas, non, il pensait « pauvre vie que la vie d'un setter ». Soudain, il se sentait cogné à l'autre genou. C'était son braque bleu qui, croyant réclamer une caresse, s'offrait à ce prisme de mort. Fontrange était un peu ému. Il prenait cette nouvelle tête, la secouait elle aussi. Le geste de Yorick est plus facile, plus tendre, avec des crânes de chien tous oblongs. Le bras cossait sa tête pour cette messe des chiens, pour cette puce divine qui était entre ses deux yeux sa pensée pour son maître, et quand Fontrange l'avait lâché, la laissait humblement retomber, endormie, jusqu'au sol brûlant. Toutes ces questions que d'autres neurasthéniques se posent sur l'utilité des hommes, des musées, de la cuisine, Fontrange maintenant se les posait à propos des chiens, des mangeoires en ciment armés et surtout des races de chiens. Après tout, pourquoi n'y a-t-il pas qu'un modèle unique de chiens répandu dans le monde ? Que de soucis épargnés. Bolcheviquement, une notion de l'égalité des chiens s'insinuait dans le descendant de ceux qui avaient fait tant pour en établir et en codifier les castes. Il essayait d'y résister. Il sentait bien que la société était perdue si l'on acceptait de se donner à de pareilles théories et de ne pas surveiller les purs pointeurs. Mais c'est par devoir qu'il défendait l'ancien état de choses, qu'il achetait la chienne primée au concours de Bar-sur-Aube, qu'il faisait empailler pour le musée de son chenil son meilleur chasseur de bécasses, Le premier chien, d'ailleurs, qui mourut au cours de la bataille mouille de Fontrange et des chiens. Oui, c'était pendant la fermeture de la chasse, époque où meurent presque tous les chiens, comme meurent pendant les vacances presque tous les professeurs. Fontrange pensa que ce désœuvrement des chiens le rendait peut-être injuste. Il ne pouvait pourtant pas les atteler. 1 heure passée avec sa meute changeait son indifférence en irritation. Les défauts qu'un autre nerveux eût découverts chez les hommes, Fontrange les découvrait maintenant dans les chiens. Alors que jusqu'ici il les avait traités en êtres irresponsables, aussi indifférents à leurs défauts qu'un déterministe aux défauts des hommes, il s'affligeait de voir des chiens menteurs, des chiens sensuels, des chiens bavards. Sa métaphysique et sa morale des chiens n'avaient pu se maintenir dans cette catastrophe. La chienne primée de Bar-sur-Aube allait mettre bas. Il ne la visitait plus que par respect pour le nom des Fontranges. Il crut désirer, comme autrefois, la venue de petits animaux purs, d'une portée enfin arrivée sans encombre de l'Éden des chiens, avec ses relais si proches, si fragiles que sont les existences des chiennes. Mais quand les 4 petits vinrent au monde, tous avec des stigmates désirés, marqués en belle place, il s'aperçut qu'il lui était indifférent. La nuit, quand quelques chiens de ferme aboyaient, cette idée de l'égalité des chiens, de la vanité de leur caste, le tenait éveillé et triste. Les roquets, les faux-bossons, les bas-rouges se répondaient à la ronde dans un rôle médiocre pour signaler quelques mendiants. Ils supportaient à la rigueur cela. Mais si quelques jeunes chiens de la meute, encore incertains de sa mission, donnaient de la voix, il se retournait, agacé, dans son lit. Puis il s'irritait contre lui-même. Il essayait de réagir. Il allumait. Il lisait ce qu'avait écrit sur les chiens, non pas cet abominable Linné, mais les écrivains qui les avaient de plus aimés, Buffon, Toussenel. Hélas, un malheur lui arriva dans ses lectures. Feuilletant un soir au lit le Buffon aux environs du mot chien, il tomba sur le mot cheval. Et soudain, il lui fut révélé qu'il aimait peut-être aussi moins les chevaux. Les chevaux étaient plus chers encore au Fontrange que les chiens. Tous, depuis Clovis, avaient fait la guerre, et aucun ne l'avait fait à pied. Le cheval était pour eux la base de l'homme sur la terre. Fontrange eut froid au cœur. Ah, il ne manquait plus vraiment que cela. Il passa une robe de chambre. Il se mit à la fenêtre. La rosée du soir était tombée et une bouffée si parfumée de toutes les fleurs et de toutes les herbes pénétra dans sa chambre qu'il hésita à l'aspirer comme autrefois à plein poumon, tant ses sensations maintenant se brisaient sous lui et qu'il ne s'y hasarda que timidement comme sur la glace. Par bonheur, le parfum des 2 gros magnolias qui avaient pris dans l'angle de l'aile et du corps du château, exposé au midi, la taille des sapins et qui étaient en fleurs, résista, s'imposa, et Fontrange, embaumé, s'aventura à regarder la nuit. La lune brillait. Elle éclairait, bien au-delà de la Seine, les toits d'ardoise de Dolfol de Berteval, les éleveurs qui, tous en ce moment, jusqu'aux femmes et aux filles, dormaient tranquilles sur les notions invétérées et intangibles qu'ils avaient reçues des aïeux pour tout ce qui concernait les veaux, les taureaux et les bourrins, et qui étaient au réveil allaient retrouver intact leur cheptel. Il les envia. Était-il vrai que Dieu retira au dernier des Fontranges cette monture sur laquelle il avait le droit depuis 1125 d'entrer dans toutes les églises de la chrétienté. Il regagna son lit, relut Buffon, mais ce mal qu'il avait détourné des chenils, cette espèce de peine à la vue d'un chien parfait, ce chagrin d'enfant devant la vanité de la noblesse canine, malgré les phrases de Buffon, ce bolchevisme dans sa pensée aussi avait contaminé les chevaux. Les pales froids sur lesquels les premiers frontanges avaient avec Charlemagne créé la France et Diadumène leur premier cheval de course, qui avait battu en 1781 le cheval du duc d'Orléans, et Faublas, qui sauva en 1848 son maître de l'eau comme un chien, par les dents, tous devenaient dans son esprit les égaux du cheval de ferme. Toute la chevalerie de France était soudain dans sa pensée, mise à pied. Toute l'histoire de France devenait une histoire d'infanterie. Azincourt, Reichshoffen, ces noms de défaite pour les hommes, mais de victoire pour les chevaux, résonnaient à ses oreilles aussi ternes que ces noms bourgeois de Bouvines ou de Colmiers. Il voulut en avoir le cœur net. Par l'escalier de la tour, pour éviter le hall avec ses tableaux, où il n'était pas sûr de ne pas apercevoir entre deux aïeux inconnus de lui un chien ou un cheval dont il savait par cœur le nom et l'histoire, il descendit, gagna les communs et ouvrit toute grande, d'un geste d'éclusier qui se suicide, lâchant sur lui-même sa rivière, la double porte de son écurie. Le fox couché dans une des mangeoires grogna doucement, sans inquiétude. L'affaire de celui-là et de Sarah s'était liquidée. Fontrange lui ordonna durement le silence. La lune inondait l'écurie. En robe de chambre, les pieds nus dans ses sandales, Fontrange, Apollon vieilli, regardait sous la lune ses quatre chevaux préférés, ce quadrige qui n'attellerait plus au soleil. Le parfum des magnolias se mêlait ici à celui des jasmins qui tendaient les communs. Avec quelle volupté il avait jadis respiré cette odeur, soutenue qu'elle était par la chaleur de l'écurie, quand il partait avant l'aube pour le chasse à cour. Cette nuit encore, elle le pénétrait, le touchait comme une promesse. Mais quelle promesse! Les magnolias, les jasmins, la nature en un mot, venaient sans doute d'être mis au courant des pensées de Fontrange. Tout ce qu'il y a de promesses pour un être dans leur doux parfum restait vrai, mais par une logique que Fontrange ne comprenait pas, ces promesses s'appliquaient au passé. « Tu auras un passé heureux, » disaient les magnolias, et les jasmins s'en mêlaient. « Ton avenir a été sombre, triste, » disait-il. « Mais tu auras, heureux Fontrange, des jours passés délicieux. » Le pauvre Fontrange, ses moustaches à la gauloise, mal tombantes, pour la première fois devant ses chevaux, sans son manocle, se débattait ainsi dans cette lutte, cette ombre, sans arriver, par la faute des fleurs, à trouver le vrai aiguillage entre ce qui était et ce qui n'était pas révolu. Les chevaux dormaient, étendus sur la paille tressée, calmes tous quatre, les deux pur sang, le demi-sang et le cob. Fontrange le regardait avec rancune et pitié, comme on regarde dans son sommeil une maîtresse que l'on va quitter. Le cob ronflait. Les pattes enroulées et contournées autour d'eux, ainsi que les peintres les dessinent lorsqu'il n'y a plus de place au bas de la page d'album, posés sur la terre comme les chevaux marins le sont sur l'eau, éloignés des quatre noms dont les hommes les avaient baptisés et qui étaient inscrits au sommet des mangeoires, éloignés de tout langage, de toute pensée, ils goûtaient le sommeil des animaux les moins intelligents et buvait à un gouffre noir au carreau. La lune éclairait les taches blanches que le gris pommelé devait à son père Hébron. Mais la gloire d'Hébron, mais ses médailles blanches, ne faisaient plus résonner aujourd'hui des souvenirs et d'orgueil le cœur de son maître. Fontrange avait presque honte de suspendre ainsi ses bêtes. Magnifique qu'il trahissait, et sans le vouloir, il toussota ainsi qu'il l'aurait fait pour venir de sa présence un ami surpris dans le sommeil qui le dévoile. Trois reconnurent la voix de leur maître. Le gris pommelé et l'alezan, demi-sang, tentèrent même de se dresser sur leurs pattes et hennir. Sang et demi-sang dans le cœur des chevaux alimentaient de la même vigueur la fidélité au frontange. Ils devaient souffrir d'un gouffre bien obscur, car la lune les effrayait, mais du moins elle lustrait leur robe. Jamais lune n'agita davantage le cœur des chevaux de Fontrange et ne leur donna un poil plus lisse. Seul Séba ne se levait pas. C'était un noir pur arabe dont il y avait toujours eu un modèle chez les Fontrange depuis Saint-Louis. C'était Séba, appelé du nom de ce cheval cher au prophète lui-même, mais dont certains hippologues prétendent qu'il était un étalon et certains autres une jument. La même discussion régnait d'ailleurs à ce sujet à Fontrange. Les Fontrange, au cœur dur, réservaient généralement le nom à un cheval. Les Fontrange tendent à une jument. Donc Séba dormait. Elle dormait presque d'or comme dort une femme, les jambes pliées, ses longs cils délicatement croisés, le col chaviré, portrait aussi de la gazelle que le bédouin avait placée à l'heure de la monte devant la poulinière sa mère et les talons. Séba était âgée, mais elle restait la préférée de Fontrange. Elle avait été toute son imagination, toute sa science. Les seuls livres qu'il eut réellement pratiqués étaient les traités arabes d'équitation, venus à Fontrange en même temps que Séba. Et lui, qui n'a jamais pu apprendre le mot anglais ou allemand le plus usuel, connaissait par cœur tout le vocabulaire créé par le prophète ou les grands arabes pour le dressage et la vie des chevaux. Il ne parlait qu'arabe avec Séba. Elle avait été aussi toute sa poésie. Lui qui n'avait jamais lu un vers français savait tous les poèmes arabes sur les chevaux, les plus beaux entre tous les poèmes au dire des abencerrages. Ces tournois entre poètes arabes pour décrire la queue de leur monture ou le bruit de leur galop, lui aussi il le passionnait. Bien qu'il n'eût jamais eu l'idée d'une métaphore, il trouvait juste de décerner le prix au poète qui avait appelé la queue de Séba une traîne de mariée et son galop un pétillement de branchage en flammes. Séba était arrivé à Fontrange dans l'année, heureuse de son flirt avec Jacques. La poésie arabe n'est guère qu'un dialogue entre père et fils au sujet de leur coursier. Au lieu de commenter à son fils les fables de Ratisbonne, c'est cette poésie que Fontrange lui avait transmise, tournant avec Jacques autour de ses bas, lui montrant, et comme le prophète à son entourage, que ses bas étaient la jument parfaite, puisqu'elle était de face impatiente, de dos imposante, de côté puissante, ou bien le lendemain, quand il avait lu un autre poème, puisque ses bas et face étaient pareils à l'épervier, et de dos pareils au lion, de côté pareils au loup. La seule où il pensa à ses deux filles fut le jour où il lut la description par deux fillettes du cheval de leur père, Amir. C'était ses bas qui avait servi au premier galop de Jacques. Il avait ficelé sur elle. Mais pourquoi avait-il oublié ce jour-là qu'elle remontait au fameux Dahis, le joyau de la Palestine, mais dont le sang a tiré la catastrophe, dont la descendance a vu tuer sur elle plusieurs rois ou a conduit dans l'exil des nations entières? Le sort avait dû rire de ce père qui craignait de ne pas voir son fils assez solide en croupe du malheur. Pauvre Séba! Il s'approcha de la dormeuse et il lui dit sèchement « Ougaf !» ce qui faisait lever les chevaux d'Ali. Il lui dit pour la première fois, depuis son dressage, le mot « Rabba » qui réprimandait les chevaux de Zobéide. Séba se leva, le regardant de ses yeux tendres, cherchant avec remords quelle faute elle avait commise en ce profond sommeil. Il s'approcha d'elle, elle piaffa, courba l'encolure. Formé au dressage arabe le plus strict, chacun de ses mouvements paraissait rituel. Cette allure médiévale qu'elle avait à sa promenade et que les châtelains voisins étaient forcés de reconnaître, sous ce harnachement que font ange par un petit caveçon ajouté à la bride, par une voussure du pommeau avait apparenté au harnachement des croisés, elle la gardait même au repos, même sans sel. Mais Fautrange devait reconnaître qu'il ne l'aimait plus. Ces tout petits reproches qu'il avait parfois, dans un accès d'enjouement, formulés contre Jésus, contre Jésus, qui n'avait pas, ainsi que Mahomet, créé une langue pour les chevaux, qui avait chevauché en tout un âne, il se trouva ridicule de les avoir faits. Sur son âne, Jésus restait aujourd'hui vainqueur du tournoi. Fautrange sentit son âme soudain noire. Il ne savait pas que ce qu'il avait caressé sous la forme veloutée de ses bas, que ce qui tout d'un coup disparaissait de son imagination, c'était l'Orient même. Ses petits départs vers le lever du soleil, au pas si léger et si sûr de ses bas, car seule peut-être de tous les chevaux arabes du monde, elle savait encore aller au pas, comme les montures des paladins, il ne devinait point que c'était de petits voyages vers l'Orient, et que cette joie qui le hissait sur sa selle à pommeau voussé, c'était l'esprit des croisades. Tout cela n'intéressait plus. Au fond, pourquoi n'avait-il pas gardé, comme l'avait fait son père, le nom de Séba pour un cheval? Le cob, qui avait bu sans doute pendant son sommeil au lit mère du chaos, en était excité. Fautrange n'aimait pas qu'un cheval sorti agité du sommeil, mais aujourd'hui cela lui était égal. Il songeait à la vanité des haras, de la reproduction, de la vie. Le cob rongeait sa corde pour s'échapper, hennissait vers ses bas. Autrefois, Fautrange lui prit une chambrière. Aujourd'hui, il n'avait pour tout cela qu'indifférence, presque dégoût. Qu'il s'échappe donc, qu'il couvre ses bas. Il s'approcha, le flatta, le caressa. Ne pas battre un cob inconvenant, il en aurait pleuré. Oh, il ne l'aimait plus. Il referma la porte avec précaution, comme un voleur de chevaux. Il venait de leur voler au moins leurs ombres. Ce dégoût des chiens et des chevaux dura. Si Fautrange avait su s'observer, il aurait pu voir qu'il s'était détaché aussi des autres animaux, des sangliers, des outardes, des lièvres. Mais toute sa vie s'était appuyée sur les chevaux et les chiens. Alors il ne souffrait vraiment que d'eux. Et la souffrance causée par les cailles, les mulots, les raies de genêt, il l'apercevait à peine. Il prépara sans joie l'ouverture de la chasse. Il oublia ou négligea de tirer. Souvent, après avoir épaulé et visé une perdrix, il abaissait son fusil, mais il ne se rendait pas compte que ce geste prouvait qu'il n'aimait plus les perdrix. Blaireau, renard, se mirent à pulluler. La neurasthénie du seigneur ramenait dans le district les luttes primitives. Si Fontrange, d'ailleurs, n'avait pas eu devant lui ce rideau de chiens et de chevaux, il se serait aperçu aussi qu'il n'aimait plus les hommes. Habitué à mesurer l'importance des hommes d'après leurs rapports plus ou moins étroits qu'ils ont avec le chenil et l'écurie, il croyait le plus aimé le piqueur, le palefrenier, à cause de leur métier. En fait, c'était que celui-ci lui paraissait trop rouge, l'autre trop pâle. Il croyait que, s'il éprouvait moins de plaisir à voir Madame Bardini, la jeune femme du contrôleur des hypothèques du bar, c'était parce que le chien de Madame Bardini, un chow-chow égaré à la naissance de la Seine, ne l'attirait plus. Quand René Bardini baillait, ce qui lui arrivait au moins une fois avec Fontrange, peu bavard, et montrait son palais rose, sa langue pointue, ses dents sans canine, toutes caractéristiques qui prouvent les bâtardises des chiens, mais la race pure des Indo-Européens, le regard de Fontrange évitait ce gouffre rose clair, parce qu'il lui rappelait, croyait-il, le bâillement de chow-chow. En fait, il ne trouvait plus rien d'agréable à la bouche de Madame Bardini, à la bouche des femmes. Il lut dans « Un voyage en Russie » que les chevaux de Moscou, avec leurs houppettes, leurs encensements, leurs sonnailles, leurs poitrails ornés et bondissants, ne seraient mieux être comparés qu'à des femmes. Il fut surpris de la justesse de l'observation. En effet, il devait y avoir des poneys comme Madame Bardini. Il observa le lendemain pendant sa visite. Pas de doute, René Bardini était faite pour être pomponnée, attelée, menée à l'étang. Il ne l'aimait plus. Ainsi, il ignora que tous les hommes et toutes les femmes, et les garçons et les filles, et les chefs de gare, et les maréchaux de logis de cuirassiers, et les barons et les rois, tous les figurants de sa vie étaient devenus pour lui des motifs de tristesse et de haine. Dissimulés derrière la première ligne sacrifiée des chevaux et des chiens, tous ces êtres attendaient qu'un vent eût soufflé sur la mélancolie de Fontrange. Un soir où le vrai vent avait soufflé et ne s'était apaisé que peu avant le coucher du soleil, Fontrange prit sa pèlerine, son fusil, et par le parc gagna la forêt. À son passage, les chiens et les chevaux, un peu engraissés, comme ceux d'Hippolyte amoureux d'Aricie, mais pour une sinistre raison, tirèrent en vain sur leurs chaînes. Ils n'aimaient maintenant se promener qu'à pied et que seuls. La pluie dans les allées avait rajeuni les traces de roses qui dataient du printemps. Des crapauds minuscules s'ébattaient en souverains héréditaires dans les flaques qui n'avaient pas une heure. Les averses d'une journée avaient suffi à changer en paysage aquatique ce domaine hier sec encore, et les poules d'eau, les canards chantaient à la place des cailles. C'était un changement d'époque terrestre. Fontrange en jouissait. Il avait besoin que les arbres versassent sur lui de l'eau et non de l'ombre, que le sol ne résistât point mais l'aspirât, que le gazon n'essuyât pas ses chaussures mais les oignit, et sa promenade le mena non au roc dur mais à l'étang. Le soleil sur sa fin empourprait l'horizon et les chemins inondés. De moins entêté que Fontrange, dans cette soirée lamentable, aurait renoncé à se dissimuler plus longtemps que l'on ne se console pas de la mort d'un fils, de l'outrage du sort à l'égard d'un petit Fontange. Mais pourtant, je découvrais toujours à temps, dans les ombres ornières, une empreinte de fer à cheval ou une trace de chien pour s'obstiner dans ces deux seules brouilles. Il arrivait devant l'étang. Le vent se levait à nouveau. La masse des sapins s'agitait d'un frémissement qu'on ne percevait qu'à sa frange. Un renoncement total, une désolation complète, eût soulagé Fontrange. L'eau de l'étang arrachait de lui un reflet heurté et pauvre, une vraie confession. Devant ce feu, lieu sinistre, tout autre aurait avoué qu'il n'aimait plus la France, ni ses rois, ni ses premiers Fontanges qui s'étaient acquis par leur courage et leur lenteur à comprendre la devise Ferreum ubique. Mais un hurlement lointain lui arriva juste à temps pour lui permettre de penser seulement. Non, mais ce Miro est insupportable. S'il avait été franc, il eût avoué que Madame Barnini ne lui paraissait plus jolie, que Bella et Bellita, ses filles, ne lui étaient plus rien, que tout, plus que tout, lui était égal, plus qu'égal. Mais il se contint encore, et il pensait que Buffon aurait pu aussi bien écrire: La plus déplorable conquête que l'homme ait jamais faite, c'est. Lorsque, soudain, il entendit des branches craquer. Il se retourna. À 5 mètres de lui, dos à l'étang et au soleil, un flot de lait d'eau argentée coulant de sa bouche, les oreilles tendues vers l'avant, des frémissements courant de façon presque continue sur ses reins tout fumants de la pluie tombée, un cerf le contemplait. Il regardait Fontrange sans curiosité, mais avec volonté, en hypnotiseur, baissant parfois le front. C'est dans un tel moment, pensait Fontrange, qu'on voit combien sont stupides les histoires où le conteur fait poser un merle sur les bois du cerf. On sentait ces ramures sacrées, interdites à tout oiseau, les branches les plus antiques et les seules vivantes de la forêt. Le cerf, d'ailleurs, semblait avoir une mission précise. Il se rapprocha encore d'un pas compté et sans piétinement, si près que Fontrange vit son propre reflet dans des larges prunelles en amande. Puis, comme si la faveur divine de n'avoir pas peur de regarder l'humanité, de lui donner des leçons de courage, était soudain ravie à l'animal, il s'effraya, bondit et disparut. Fontrange n'était pas superstitieux, mais il était sensible, et tout ce qui eût agi sur la volonté d'un esprit crédule agissait sur son cœur avec les mêmes effets. Il ne croyait pas aux mauvais augures, aux ordres donnés par les corbeaux ou les chouettes qui ululent, par les chats noirs ou les lièvres qui traversent la route. Mais de tels accidents l'amenaient à réfléchir avec pitié sur la crédulité humaine, sur tous les malheurs de l'humanité, sur les malheurs aussi des corbeaux et des chouettes, et par humilité et soumission, il obéissait à ces présages. Quand un chien hurlait à la mort, il ne croyait pas qu'un voisin allait mourir, mais il pensait, car il y allait toujours sans demi-mesure, à toutes les morts passées et futures, y compris les morts de chiens. Il était aussi triste du hurlement que les vieilles du château. Il ne vit pas dans l'apparition du dit corps un second miracle de Saint-Hubert. Mais il était ému de cette attention du sort qui le faisait assister à une répétition bourgeoise de ce miracle, peut-être à son explication. Le grand cerf qui s'était soudain dressé, non pour lui reprocher sa cruauté et ses carnages comme à son patron, mais au contraire pour le blâmer de ne plus aimer la chasse, qui avait pris contre Frontange la défense des chiens et des chevaux, ennemis mortels des cerfs, qui avait concentré sur lui, dans le couchant et dans la pluie, la sainteté de la vénerie. Fontrange savait bien que c'était le hasard qui l'avait fait surgir, mais que des hasards puissent avoir ce caractère de sainteté, il en était ému. Que le miracle de Saint-Hubert se reproduisît juste à l'heure où Saint-Hubert cessait d'être le patron de Fontrange, avec cette tendre ironie qui forçait le sort à supplier pour la mort des perdrix et des biches, avec cette absence de crucifix dans la ramure qui disait que c'était simplement un petit miracle de famille, presque laïque, non destiné aux foules, cela lui donnait aussi le sentiment d'un renouvellement automatique des miracles. Il pouvait en avoir moins de considération pour la nature, pour Dieu ainsi que pour un grand homme qui vous conte deux fois la même anecdote. Mais il en éprouva surtout le sentiment de la vanité des miracles, des hommes, et cela était nouveau de sa propre tristesse. Le détachement des chevaux et des chiens lui parut aussi vain que l'amour qu'il avait autrefois pour eux. Il connaissait ce cerf comme tout le gibier de la forêt. Il savait ses habitudes de famille, le nombre de faons qu'il avait eus, son talent à défendre sa horde, son poids exact, mais il devait reconnaître que par un de ces gestes qui font bondir soudain les animaux dans un bessière idéal et les accolent à un saint ou à un martyr, ce cerf avait bondi dans sa vie et s'était accolé pour toujours au dernier des Fontranges. C'était moins un miracle qu'une leçon de noblesse, presque de maintien, qu'une leçon contre la mélancolie et la nervosité qui dégradent. Ces deux êtres qui s'étaient affrontés comme au temps de Saint-Hubert dans leur dignité, le cerf en tout point semblable à son ancêtre, le dernier des Frontanges guettré par le bottier même de Saumur, et en monocle, car il n'avait pas eu le temps encore de reconnaître qu'il n'aimait plus les bottes et la parure, le cerf avec les mêmes goûts pour les mêmes jeunes pousses et le gazon, Fontrange, par trop imbu de radicalisme, de socialisme, de snobisme, le cerf se cabrant, Fontrange le regardant pour la première fois, plus dans les yeux qu'au défaut de l'épaule, cependant qu'un silence inhabituel régnait autour d'eux, et que tous les autres animaux, lièvres, lapins ou sarcelles, poissons dans l'étang, plus peureux encore d'avoir délégué leur force en ce seul animal, se cachaient au fond des herbes ou des eaux. Cela était une image d'autrefois. C'était pour un chasseur ce qu'est un chromo pour un enfant premier en classe. Ce satisfecit que Dieu lui donnait sur le tard le fit sourire. Or, il n'avait pas souri depuis un mois. Il pensait à ce poil de cerf, si dur au toucher, si doux à la vue. Il pensait à ces naseaux de cerf, plus veloutés que les naseaux de cheval et qu'il n'avait caressés que sur les 100 morts, la dernière fois, sur le père justement du cerf d'aujourd'hui. La tendresse, l'amitié, la douceur se réinstallaient dans cette âme simple. Comme un héros se levant, il prit joyeusement son fusil, tira. Le héros, en tombant, fit jaillir un lièvre qui fut tué lui aussi. Pendant 5 minutes, le couchant retentit de coups de feu que les bords encaissés de l'étang répercutaient dans toute la forêt, qui annonçait que Fontrange revenait à la vie et que renaissaient pour lui les faisans et les lièvres. Il suivait, presque inconsciemment, le chemin par lequel le cerf avait disparu. Sur la trace du cerf se levaient des perdrix rouges, des râles, des lapins. Le cerf s'était mué pour la réconciliation en chacune des espèces volantes ou galopantes. Pour la première fois, Fontrange ne se sentait plus coupable envers elle. Il les tuait joyeusement. Il sema sur son passage les petites morts des jours heureux. Le garde-chasse croyait à un braconnier, mais les chiens hurlaient de joie, les chevaux, qui ne comprennent qu'indirectement, hennissaient d'entendre hurler les chiens. Dans la lune qui se levait, Fontrange revint couvert de bêtes aussi distinctes que dans les tableaux hollandais où est peinte la création. Un héron, un lièvre, une fouine, les sansonnets. Il revint dans le chenil, fit sentir à chaque race sa proie. Les chiens bondissaient de délire. À travers l'œil de bœuf, il cria à ses bas, hennissante, le mot du prophète qui excite la monture à la guerre. Ses bas piaffaient. C'est ainsi que, par l'intercession d'un cerf, Fontrange reprit la chasse, métier divin, et retrouva l'affection pour tout ce qui sert la chasse, chiens, chevaux, gardes et braconniers. Ce n'était pas trop tard. Il ne se douta jamais que pendant quelques mois, il avait haï les hommes. Et le jour où il prit le train pour venir voir à Paris l'exposition canine, il ne se doutait pas qu'il était réconcilié non seulement avec les chiens, mais avec ses deux filles, avec Madame Bardini, et le deuil de son fils. Il le ressentait non plus comme une diminution, un malaise, mais comme un vrai et terrible deuil. Car chiens et chevaux lui avaient caché aussi qu'il était brouillé avec les morts. Paris, 1925.